Bonjour à tous. Voilà. Content encore une fois d'être avec vous ce matin. Donc on est dans notre série sur l'Exode, en plein milieu du désert du mont Sinaï, devant le mont Sinaï. Vous vous rappelez, le peuple tremble devant la montagne et la voix de Dieu résonne dans l'air. Tout le monde tremble et puis il donne ses 10 commandements, notamment celui-là, « Tu ne commettras pas d'adultère ». Pourquoi est-ce que Dieu interdit de commettre l'adultère ? Dans notre culture, l'adultère semble banal, n'est-ce pas ? On regarde dans les films, les médias, les comédies, ça passe de la littérature classique, que ce soit Madame Bovary, Le Rouge et le Noir, Les Liaisons dangereuses, à tous les sites de rencontres où tu peux adopter un mec, même des sites de rencontres pour les personnes qui sont déjà en couple. Je ne sais pas si vous connaissez le site Glidden, le composé de Glee, qui veut dire joie, euphorie, allégresse et Eden, Glidden. Et c'est le premier site de rencontre extra-conjugale pensé par des femmes. Donc vous pouvez, sur ce site, affirmer clairement être déjà en couple et puis chercher officiellement à aller voir ailleurs. Il se trouve qu'actuellement, il y a déjà 8 millions d'utilisateurs sur ce site, un site parmi tant d'autres, donc 4 millions se trouvent déjà en France. Donc ça fait déjà un certain chiffre. Voilà ce que proclame ou propose ce site. Oser, croquer, savourer, proclame l'une de ces femmes. Où figure une photo avec une jeune femme qui s'apprête à manger pas moins de 8 pommes. Une autre affirme, être fidèle à deux hommes, c'est être deux fois plus fidèle. Voilà, un site web parmi tant d'autres. En France, en 2023, un sondage estime que près de 50% des hommes auraient déjà commis une infidélité, près de 40% des femmes. Ce sont des statistiques que j'ai lues en préparant le message, mais en fait, au-delà des statistiques, quand je pense à l'adultère, je ne sais pas pour vous, mais je peux faire une liste dans mon passé des cas que j'ai rencontrés, que ce soit dans ma famille élargie, dans l'église, dans les amis. La liste se fait sans problème. Dans le vocabulaire, on a plein de mots pour dire ça, pour ne peut-être pas utiliser le mot adultère qui a l'air assez lourd. Aller voir ailleurs, avoir une maîtresse, avoir un amant, avoir une relation hors mariage, avoir une liaison, se faire tromper, etc. etc. L'adultère et l'infidélité, ça semble, comme dirait, faire partie du paysage. Et pourtant, Dieu interdit l'adultère. Pourquoi ? Pourquoi un tel décalage entre ce que dit Dieu et ce que nous vivons ? Pourquoi est-ce que nous ne pensons pas comme Dieu ? Qu'est-ce qui est différent ? En fait, si. Une majorité des Français, à peu près 80%, estiment que la fidélité est essentielle pour une relation heureuse. Ils l'estiment, 80%. Mais en fait, quand on regarde ce qu'ils pensent être nécessaire et ce qui se passe dans la réalité, il y a un décalage. Est-ce qu'on ne serait pas en train de sous-estimer l'adultère, de le prendre quelque peu à la légère, de penser qu'il n'est pas si grave ? L'adultère, en fait, c'est comme une lionne affamée déguisée en chaton inoffensif. On pense pouvoir le caresser, le prendre dans nos bras, dormir avec dans notre lit, lui faire des câlins, alors qu'en fait, c'est une bête féroce qui veut juste planter ses crocs dans notre cou. Et toutes les personnes qui ont fait cette erreur sont à peu près unanimes. Les dégâts sont considérables. Et là, on est dans une église, donc on parle de l'adultère du point de vue biblique, mais même sans parler de la Bible et de ce qu'on dit la Bible, tout le monde est unanime. Les dégâts de l'adultère sont terribles. Voilà ce qu'en dit un psychologue qui s'appelle Christophe Auré. Il y a toujours de la souffrance qui en résulte quand les choses sont sues. L'intention initiale, c'est peut-être d'explorer autre chose, sortir des limitations, peut-être un peu étroites de sa vie et de son couple. Mais après quelques années, il y a toujours quelqu'un qui souffre. Il n'y a pas de connotation morale dans ce qu'il dit là, mais plutôt émotionnelle. Pour lui, c'est juste un point de vue moral, pas émotionnel. Pas moral, pardon, juste émotionnel. Il y a toujours quelqu'un qui souffre. Et en réalité, au-delà de ce que la société peut penser, c'est même encore plus grave que cela, encore plus destructeur que cela. Et voici ce que j'aimerais que chacun d'entre nous retenions ce matin. Détruis l'adultère ou la tentation de l'adultère, parce que sinon c'est l'adultère qui va te détruire. Ne prends pas l'adultère à la légère. Il y a peut-être des gens parmi nous qui sont actuellement tentés de commettre un adultère, d'aller voir ailleurs, avec une relation au travail, une personne qui les fait se sentir bien. Alors que dans leur couple, ça se distend, les relations sont de moins en moins remplies d'amour et d'affection. Peut-être que si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce sera le cas demain. Il y a de grandes chances que ça vienne demain. Et peut-être que pour certains, l'adultère, ça fait déjà partie du quotidien actuellement. C'est déjà en train de se passer. Et ça touche aussi les célibataires. Parce qu'un célibataire peut être en adultère avec quelqu'un de déjà marié. Et si un adultère veut se marier demain, toutes les relations qu'il aura eues avant auront un impact sur sa vie future. Nous sommes tous menacés par ce phénomène. Tous. Surtout si nous pensons être à l'abri. Alors je vous propose de voir ensemble ce que dit la Bible sur la gravité de l'adultère. J'aimerais premièrement qu'on voit comment elle le définit, sa nature. Et on va voir que puisque l'adultère s'attaque à la chose, l'institution la plus précieuse que Dieu nous a donnée, qui est le mariage, alors la gravité de l'adultère qui s'attaque directement à ce symbole est immense, universelle. On verra ensuite les conséquences, trois choses que l'adultère détruit. Et enfin, je vous propose de voir comment on peut résister à la tentation de l'adultère qui est si grande. Et je rêve que dans cette église, chaque couple, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation, ses années de mariage, soit tellement fondé en Christ qu'il soit prêt à transpercer la tentation de l'adultère à chaque fois qu'il se présentera. Voyons premièrement une définition biblique. J'aimerais voir avec vous trois niveaux d'adultère. Les deux premiers niveaux, ce sont les adultères physiques et mentaux. L'adultère, ça peut être considéré comme un acte sexuel commis physiquement ou mentalement avec un homme ou une femme en dehors du mariage. Premièrement, les deux premiers niveaux, physique et mental. L'adultère s'attaque directement à l'union prévue en Genèse 2:24 du mariage. Est-ce que vous connaissez Genèse 2:24 ? Quelqu'un connaît par cœur ? Elle est plus fort, Thomas, vas-y. Ah, parfait. Vas-y, dis-le pour moi. Je vous ai aidé. Merci. T'as bien repris, t'as bien pris ta Bible. On ne peut pas définir l'adultère sans définir la sexualité dans le mariage. Parce que l'adultère, ce n'est pas la fornication qui est une relation sexuelle en dehors du mariage. L'adultère se passe dans le cadre du mariage, en dehors de cette union entre deux personnes. Quand on pense au mariage, je vais me marier très bientôt, je pense que vous le savez, le 12 juillet, vous êtes d'ailleurs conviés à la cérémonie, 12 juillet 2025, soyez présents. Le mariage, c'est quoi ? C'est trois choses. L'homme quitter, s'attacher et s'unir. L'homme quittera son père et sa mère, donc l'homme quitte la cellule familiale, quitte sa maison, on coupe, il y a une scission, il s'attache, il crée une nouvelle cellule avec une femme, ils créent leur nouveau foyer, nouvelle maison, qui n'a rien à voir avec le foyer des parents. Et ils se vouent une fidélité, un attachement jusqu'à la mort. Et ce qui scelle cet engagement dans le marbre, c'est l'union, s'unifier, devenir une seule chair, l'action sexuelle, l'acte sexuel. C'est comme la signature au bas du contrat. Et c'est là toute la portée de l'acte sexuel tel que Dieu l'a conçu, dès la création. Au-delà de juste une activité qui nous fait nous sentir bien, qui nous procure beaucoup de plaisir, c'est, comme dirait John Piper, qui est un théologien que certainement certains d'entre vous connaissent, c'est la pierre angulaire du mariage. C'est comme un arbre qui affecte la relation et les strates les plus profondes de l'être, de ses branches aux racines. C'est le ciment du mariage. C'est le lieu, entre un homme et une femme, c'est le lieu de l'affection la plus intime, la plus profonde. C'est le jardin le plus secret d'un couple. Autrement dit, le mariage est encadré, protégé par la sexualité, et la sexualité se trouve au cœur du mariage, comme quelque chose qui unit profondément cette union entre un homme et une femme. Par conséquent, l'adultère peut être principalement physique, un acte physique avec une personne qui est en dehors du mariage, quand on va donner son corps, poser ses mains, profiter de la profonde intimité d'une autre personne en dehors du jardin fermé qu'est le mariage. Mais il peut être aussi mental. Jésus nous dit en 5:28, c'est affiché, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Autrement dit, l'adultère peut déjà se passer dans nos pensées. Cette définition fait exploser les statistiques qu'on a vues en introduction. Il y a une grande chance que toutes les personnes, tous les adultes normalement constitués dans cette pièce qui ont des désirs sexuels aient déjà commis ce type d'adultère avec un homme ou une femme dans leur cœur. Moi y compris. En fait, c'est même la première étape de l'adultère physique, ça commence par là. Comme le dit Jésus en Marc, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, l'immoralité sexuelle et l'adultère. Adultère mental, adultère physique, les deux premiers niveaux d'adultère. Mais il y a un autre troisième niveau d'adultère, c'est l'adultère spirituel. L'adultère spirituel. L'acte sexuel fait partie du mariage. C'est une partie essentielle. Mais le mariage est aussi l'image de la relation entre Dieu et son peuple, entre Christ et l'Église. Nous lisons Éphésiens 5, 31-32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Tout le script, tout le scénario du mariage, avec toutes ses parties, le sexe inclus, le sexe en avant-première, c'est le symbole d'une réalité, une réalité universelle, la relation entre Christ et l'Église. Est-ce que, je ne sais pas si vous réalisez, mais que votre mariage, ou le mariage auquel vous aspirez, est le symbole de la relation magnifique et profonde et intime et joyeuse, où l'épanouissement est maximum, entre Christ et l'Église. Et tous les mariages sont supposés l'être. C'est comme ça que Dieu a fondé, instauré le mariage au début. Le mariage n'est pas juste une illustration qui nous aide à comprendre. Son but même, c'est de refléter cette relation. C'est pour ça que Paul peut dire « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église » en Éphésiens 5. Et par conséquent, comme le mariage est avant tout quelque chose qui a pour but de parler de cette intimité profonde entre nous, Église, et Dieu, l'adultère peut également être spirituel. Et tout au long de la Bible, Dieu utilise ce symbole pour parler de son peuple infidèle, son épouse infidèle, alors que lui demeure fidèle. On le voit dans les prophètes Osée, Ézéchiel, Ésaïe, je lis en Osée 2:4, « Plaidez contre votre mère, car elle n'est pas ma femme et je ne suis pas son mari. » Qu'elle retire de son visage ses prostitutions et d'entre ses seins ses adultères. Dieu avait demandé à Osée, prends une femme de prostitution comme symbole de mon peuple qui se prostitue et qui m'est infidèle. Et il demande à ses enfants, les enfants que lui a donné cette femme, de plaider ses mots. Elle n'est pas ma femme, je ne suis pas son mari. Qu'elle retire de son visage ses prostitutions et d'entre ses seins ses adultères. Donc le peuple de Dieu peut être adultère et cette image est utilisée pour montrer à quel point notre infidélité envers Dieu est grave. Et cette image va jusqu'au Nouveau Testament. On lit dans Jacques, qui dit aux chrétiens, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi est-ce que vous ne recevez pas? Parce que vous demandez pour des mauvaises raisons, parce que vous aimez ce que vous demandez plus que vous aimez Dieu. Voici ce qu'il dit. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, mais parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes! Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Si tu demandes quelque chose, même un travail, un époux, un mari, parce que tu aimes cette chose et que tu l'aimes plus que Dieu, tu aimes cette chose du monde plus que tu aimes plus que Dieu, Dieu te dit tu es adultère. Et donc l'image du mariage et de l'adultère sont extrêmement importantes pour montrer la portée universelle de l'amour de Dieu pour nous. Voici le but du mariage et la gravité de l'adultère. Donc l'adultère, pour conclure cette définition, peut être physique, mental et spirituel. Et est terriblement grave. Pourquoi ? Parce qu'il s'attaque à l'image du mariage qui est avant tout le symbole de l'union et de l'intimité parfaite entre Dieu et son peuple. Voilà pourquoi l'adultère est si grave. Voyons maintenant trois choses que l'adultère détruit. Premièrement, la personne qui commet un adultère se détruit elle-même. Je lis dans Proverbes 6, versets 25 à 35. « Ne convoite pas sa beauté dans ton cœur. Ne te laisse pas prendre par ses œillades. En effet, pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée capture une vie précieuse. Peut-on prendre du feu contre soi sans que les habits ne s'enflamment ? Peut-on marcher sur des charbons ardents sans se brûler les pieds ? Il en va de même pour celui qui s'approche de la femme de son prochain. Celui qui la touche ne restera pas impuni. On ne méprise pas le voleur qui vole pour s'alimenter parce qu'il a faim. Mais si on le trouve, il fait une restitution au septuple. Il donne une partie, tous les biens de sa maison. Celui qui commet un adultère avec une femme manque de bon sens. Il veut se détruire lui-même, celui qui agit de cette manière. Il ne trouvera que blessure et déshonneur, et sa honte ne s'effacera pas. Les gens qui commettent un adultère ne réalisent pas une chose. Leur corps, notre corps, ne nous appartient pas. Il appartient premièrement à Dieu, à l'Éternel, la terre est-ce qu'elle renferme le monde et ceux qui l'habitent. Psaume 24:1. 1 Chronique 29:11 nous dit « Tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi. Notre corps ne nous appartient pas. » Et deuxièmement, quand on se marie, notre corps ne nous appartient plus, il appartient à notre conjoint. Comme on lit dans Éphésiens 5. « Marie, ton corps ne t'appartient pas. Femme, ton corps ne t'appartient plus, il appartient à ton mari. » Celui qui commet un adultère devient donc un voleur. Il vole ce corps a deux titres. Premièrement, son propre corps, qui ne lui appartient pas, il le donne à autre chose que Dieu voudrait qu'il le donne. Et il vole le corps de la personne avec qui il commet un adultère. Et ce faisant, ce voleur accumule une dette qu'il doit rendre au septuple. Le voleur devra rendre ce qu'il a volé. Ce voleur, qui touche et qui vole sa chair même. Ce n'est pas juste quelque chose d'extérieur à soi, c'est sa chair même. On voit dans Corinthiens 6, que c'est un péché qu'on fait contre son propre corps. Et c'est en ce titre un péché qui est particulier. Va le détruire. Et on pense à ces grands orateurs, prédicateurs, ou même juste des pasteurs, ou même juste des membres de l'Église qui ont commis un adultère, et tout ce que ça a détruit. On pense juste à une situation normale, ou dans une famille, tout ce que ça peut détruire, rien que la réputation. Tous les cercles d'amis ne te considéreront plus de la même manière. Ou alors tes enfants. Et ce n'est que ce qui se passe dans notre société, mais, et dans le futur quelque part terrestre. Mais cela affecte aussi le futur éternel de celui qui commet un adultère. La sentence pour ces Hébreux qui entendent ce commandement de Dieu, vous vous rappelez ce que c'est ? Lévitique 20, verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Ça montre à quel point la gravité de l'adultère aux yeux de Dieu. Paul dit aux Hébreux que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit épargné par la souillure, car ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Et donc, l'autodestruction se fait autant pour maintenant, sur cette terre, dans nos cercles d'amis, notre vie présente est foutue en l'air, mais également à l'échelle de l'éternité. Les adultères n'hériteront pas du royaume de Dieu. La première destruction de l'adultère, autrement dit, c'est l'autodestruction. L'autodestruction. La deuxième chose que l'adultère détruit, c'est la joie profonde. Et elle le troque, elle l'échange contre un plaisir bon marché. Les adultères ne réalisent pas que l'adultère va détruire leur joie profonde. Lorsque Dieu a créé Adam et l'a mis dans le jardin, il s'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il s'est dit, je vais lui faire une aide qui soit son vis-à-vis. Qu'a-t-il fait ? Est-ce qu'il a créé l'aide comme ça directement, instantanément ? Non, il a fait une chose avant. Il a créé des animaux de la terre. Et il a fait venir les animaux devant Adam. Et il lui a demandé de nommer les animaux. Pourquoi ? Et après avoir cette longue scène où on imagine le nombre d'animaux qui sont venus, Adam a éprouvé un besoin, a reconnu son besoin. Il y avait dans ces animaux quelque chose qu'il ne trouvait pas. Il est écrit, pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit à son vis-à-vis. Et à ce moment-là, alors, Dieu le fait tomber un sommeil sur Adam, il le fait dormir, et il crée Ève. Et quand il présente Ève à Adam, après l'avoir réveillée, qu'est-ce que dit l'homme ? L'homme dit, voici cette fois, voici enfin celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. Initialement, dans le mariage, dans notre mariage, dans nos mariages, la relation unique entre cette femme, cet homme et cette femme est supposée être le lieu de la joie et de la satisfaction la plus profonde, la plus pleine, la plus épanouie, la plus durable. Quelque chose qu'il ne peut pas avoir ailleurs. C'est le type de joie qui est prévu pour le mariage. C'est pour ça que le proverbe nous y encourage au chapitre 5. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre dehors ? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques ? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère ? Et embrasserais-tu le sein d'une inconnue ? Plutôt dans le même chapitre, il met en garde au contraire contre un type de plaisir, et je ne vais pas l'appeler joie, je vais l'appeler plaisir, là où la joie dure et durable, le plaisir est soudain, éphémère, charnel, rapide. Proverbe 5, verset 3 à 5, « Certes, les lèvres de l'étrangère ruisselent du miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe. » coupante comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas aboutissent au séjour des morts. Troquer l'un pour l'autre, c'est troquer la joie pleine et entière de l'harmonie du couple pour un coup de plaisir intense qui ne durera pas et qui, au final, provoqua une douleur terrible. C'est quitter un océan de plaisir pour une petite mare de plaisir physique, momentané, bref et éphémère. Ne troque pas l'un pour l'autre. Ne troque pas la beauté et la lumière du soleil et des étoiles pour un feu d'artifice qui est si rapide, mais qui, en un instant, quelques minutes, est terminé. C'est troquer un amour plein et entier pour une coquille vide en plastique. Et cette harmonie entre l'homme et la femme est totalement détruite. Je me rappelle de cette famille assez proche. L'homme avait cette tendance à aller voir ailleurs, il est allé voir ailleurs. Il y avait 3 enfants, ils étaient tous les 2 chrétiens. Et on se rappelle des larmes, on se rappelle de la solitude, on se rappelle des séquelles dans le cœur des jeunes, des enfants. Parce que l'un a préféré valoriser un plaisir instantané au lieu de la joie préservée dans l'harmonie du mariage. La troisième chose que l'adultère détruit, et c'est la destruction la plus terrible qui, en fait, découle des 2 autres, la troisième chose que l'adultère détruit, c'est cette magnifique image du mariage, le symbole de cette relation intime entre Dieu et l'Église. Je pense que la joie la plus profonde et intime dans ma vie, c'est celle que j'ai dans la famille, dans la cellule familiale, avec mes parents, mon père, ma mère, mes frères et sœurs, et qui est en construction actuellement avec ma fiancée. C'est le moment dans ma vie que je peux associer à la joie la plus réelle et profonde. Et ce qui permet que cette joie soit réellement viable et fiable, c'est une chose. Une chose protège cette joie, c'est la fidélité. Je vous ai déjà raconté, je pense, cette fois où j'ai cassé la belle voiture de mes parents alors que j'étais jeune permis, une jolie Renault Mégane. Et en fait, ce n'est pas la seule chose que j'ai cassée. J'ai cassé plusieurs voitures, j'ai cassé plusieurs canapés et plein d'autres choses. Mais mes parents, malgré ça, ont toujours été plus soucieux de ma sécurité et ont été fidèles, m'ont été fidèles dans leur affection, dans leur amour, au-delà de tout ce que j'ai pu briser. Cette chose-là, cette fidélité indéfectible, c'est ce qui protège. C'est ce qui protège cette joie et ce bonheur. Et cette joie familiale, dans la cellule familiale, reflet de notre joie avec Dieu, est protégée de la même manière par une seule chose, la fidélité indéfectible de Dieu. Comme mes parents ne m'abandonneront pas, j'ai des bons parents, et comme on n'est pas appelé à ne pas s'abandonner dans le mariage, Dieu, lui, ne nous abandonnera certainement jamais. Et c'est en lui, dans sa présence, avec lui, que se trouve la joie la plus intense. Psaume 16, verset 11. « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Le vrai bonheur, reflété par le mariage, est protégé par la fidélité indéfectible de Dieu. C'est ce joie, cet épanouissement qui est décrit dans le Cantique des Cantiques. Relation homme-femme, reflet de la relation entre Dieu et son peuple. Et la fidélité de Dieu et de Jésus-Christ à notre égard est par conséquent la chose la plus importante, qui a le plus de valeur que nous ayons. Si Dieu n'est pas fidèle, alors nous n'avons aucune chance de pouvoir préserver, garder, goûter à ce bonheur aujourd'hui et demain. Sans la fidélité de Dieu, on n'a plus rien. Plus d'assurance, plus d'espérance. Mais Dieu est fidèle au point de se sacrifier lui-même, au point de donner son corps plutôt que de renier son engagement. Par conséquent, l'adultère, c'est une attaque directe envers Christ et son Église, une attaque directe envers la fidélité de Dieu. C'est un mensonge, l'adultère est un mensonge sur Dieu qui dit que il pourrait potentiellement nous abandonner. Mais Dieu est d'une fidélité indéfectible. Ô ta fidélité, ô ta fidélité, Dieu ne nous abandonnera jamais. À chaque fois que je commets un adultère, physique, mental, spirituel, mon mariage ne remplit pas son rôle, qui est de montrer l'infinie fidélité de Dieu à cette relation de joie pleine et entière. C'est un mensonge aux yeux de Dieu et du monde. Et donc, si tu n'aimes pas Dieu, si tu n'aimes pas ton prochain, tu commettras un adultère. Si tu aimes Dieu et si tu aimes ton prochain, tu chercheras à l'éviter. Malheureusement, et je transitionne vers la troisième partie, savoir ces choses ne suffit pas. Un prédicateur a dit, les théologiens commettent autant d'adultères que les autres, et peut-être même plus. Il ne s'agit pas de savoir ces choses, ce n'est pas suffisant. S'engager à être fidèle au début du mariage, c'est bien, mais les bonnes intentions ne suffisent pas. Ce n'est pas l'alliance qu'on porte au mariage qui va nous protéger. Il faut se donner les moyens de ses ambitions, et c'est pour ça que j'aimerais voir ensemble cette troisième partie. Comment détruire la tentation d'adultère? Comment tenir ferme face à ce fléau? Et la première chose qui est obligé, c'est de guérir le mal à la racine, c'est-à-dire guérir l'insatisfaction dans nos cœurs. Et la première chose, les deux choses, c'est de se satisfaire de Dieu, de ce qu'on a en Dieu, et la deuxième, se satisfaire de la relation qu'on a avec notre épouse, de faire notre joie de la femme, de notre jeunesse. Si nous sommes menacés de l'adultère un jour ou un jour ou l'autre, c'est parce que nous sommes insatisfait à un moment de ce que nous avons. Quelle est la différence entre connaître des choses sur Dieu et être satisfait de Dieu et aimer Dieu? Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez des choses sur Dieu ou est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que dans votre relation avec Dieu, les moments de prière, les moments de lecture de la parole, les moments où vous échangez avec lui, vous y trouvez de la joie? Est-ce que vous pouvez dire avec le psalmiste, te connaître, voilà mon bien suprême? Est-ce que cela vous procure cette relation dont on a parlé, je viens de parler? Si ce n'est pas le cas, vous êtes en danger. Connaître des choses sur Dieu ne vous protégera pas quand la tentation viendra. Mais si vous aimez Dieu, alors vous pourrez comparer la joie profonde de connaître Dieu avec les plaisirs, la tentation des plaisirs éphémères. Et vous pourrez voir que l'un est beaucoup plus lourd que l'autre. Il faut donc vous attacher à Dieu, apprendre à l'aimer. Et ça peut s'apprendre, peut-être qu'aujourd'hui vous dites « Non, j'arrive pas à avoir ces sentiments, ça ne me touche pas, j'y arrive pas, je lis la parole, c'est lourd, je ne trouve pas la motivation. Et même quand je ne le fais pas, il ne manque pas grand-chose. » C'est possible de le faire, d'apprendre à le faire. On peut apprendre à aimer Dieu, ça reste un miracle. Mais ça demande, comme pour toute autre relation, d'y investir du temps. Comment est-ce que vous pouvez apprendre à aimer une personne? Comment est-ce qu'on tombe amoureux d'une personne? On apprend à la connaître, on l'emmène au lac, on l'emmène au parc, on l'emmène à la bibliothèque. J'ai pensé au lac parce que j'ai des souvenirs sur une barque, etc. De balade en barque, en bateau. On fait des choses avec elle, quand on est un homme, et avec lui quand on est une femme. Et on apprend à la voir, on apprend à voir ses atouts, on apprend à voir ses qualités, on apprend à voir en quoi elle est belle, intelligente. Et c'est pareil pour Dieu. Comment est-ce qu'on veut apprendre à aimer Dieu si on fait que apprendre des choses sur lui et on ne s'arrête pas sur ce que sont ses qualités et de voir la fidélité, l'amour de Dieu. Et ce n'est pas juste de les intégrer comme des connaissances, comme on apprendrait une liste de dates pour un cours d'histoire, mais de méditer, de penser à la réalité derrière le fait. Oui, Dieu qui a fondé l'univers est là avec moi dans cet instant, son esprit est là, il me parle. Oui, ce Dieu-là m'a gardé et m'a connu depuis que je suis enfant jusqu'à maintenant. De connecter ces données factuelles de connaissance avec la réalité pour s'émerveiller des qualités de la personne, s'émerveiller de Dieu, c'est le combat de nos pensées. Et ça demande du temps. Ça demande chaque matin ou chaque jour de prendre un temps pour le faire. Compter les qualités, les atouts de Dieu. Tu ne peux pas faire ça sans les contempler dans la parole révélée de Dieu. Où est-ce que tu vas? Tu peux voir des choses dans la nature. Mais tu vois encore davantage dans la parole révélée de Dieu, dans la prière. C'est indispensable. Fais de l'éternel tes délices. Tu peux le faire, c'est un commandement. Fais-le. Fais de l'éternel tes délices. Et deuxièmement, fais de ta femme ou de ton époux ta joie. Fais ta joie, fais tes délices de ta femme, de la femme de ta jeunesse. Proverbe 5, versets 15 à 19, je le relis. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits si rafraîchissant. Que ta source soit bénie. Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Fais-le, tu dois le faire, c'est une action. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. C'est le même exercice qu'avec Dieu, qu'avec Christ, mais avec ton époux ou ton épouse. Ça demande de passer du temps. Ça demande, quand elle n'est pas là, de se rappeler tous les souvenirs que vous avez ensemble, de se rappeler la joie, cette joie profonde que vous avez eue à certains moments donnés et peut-être qui actuellement n'est plus là. Se rappeler tes atouts. Ça demande de passer du temps, d'investir du temps aujourd'hui pour être avec elle et rechercher ces moments qu'on a peut-être perdus. Là encore, tu dois être intentionnel. Donc, guéris le mal à la racine, l'insatisfaction dans ce que tu as maintenant. Et c'est la base. S'il n'y a pas ça, c'est la cata. Deuxième chose, comment détruire la tentation d'adultère, ne pas sous-estimer notre nature. Oui, j'avais mis cette citation de John Piper. L'immoralité sexuelle coupe les ailes qui nous élèvent vers la joie la plus haute, la plus riche et la plus durable. Un plaisir éphémère nous fait sortir de cette joie avec Dieu ou notre épouse. On peut mettre la suite. Ouais, la suite, merci. Ne pas sous-estimer notre nature. Prends non garde de ne pas tomber. La vérité, un livre qui s'appelle « La vérité à propos de l'adultère » de M. Gary Numan dit que presque 70% des personnes qui ont commis un adultère pensaient qu'ils ne feraient jamais quelque chose comme cela. De plus, il disait, je ne tromperai jamais mon épouse. Et ceux qui avaient dit ça avaient un risque exponentiel de le faire plus tard dans leur vie. Que celui qui est debout ne prenne garde de tomber, nous dit l'Écriture. Satan est le plus content quand on est, le plus satisfait quand tu es sûr qu'il y a un domaine dans ta vie où vraiment tu ne tomberas jamais. Quand tu es sûr de toi, c'est là qu'il va venir t'attaquer. Et vous savez quoi, le taux d'adultère, le risque de faire un adultère augmente avec l'âge. Un sondage révèle que 38% des hommes entre 18 et 34 ans admettent avoir été infidèles. Ça augmente à 51% pour la tranche 35-49. Et pour les plus de 50 ans, c'est 66%. Le pic, c'est 55 ans. Ça veut dire que plus le temps passe, et peut-être qu'en approchant de la cinquantaine, il y a des choses aussi qui se passent, plus le risque potentiellement de baisser ses gardes et de se dire « ça ne m'arrivera pas » est grand. Un pasteur qui s'appelle Josh Coyer avait cette habitude de poser cette question aux couples qui font une préparation mariage, et que je vous la pose aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, mais aussi pour ceux qui sont mariés et qui ont peut-être déjà fait cette expérience. Qu'est-ce que tu feras la première fois que tu commenceras à avoir les mêmes sentiments que tu as pour ton épouse, mais pour une autre femme ou pour un autre homme? Qu'est-ce qui se passera quand les mêmes sentiments que tu as maintenant pour ton épouse ou pour cette personne avec qui tu veux te marier, tu les auras pour quelqu'un d'autre? Et cela va arriver. Cela risque grandement d'arriver. Et j'aimerais vous proposer quelques signes qui indiquent que vous êtes en danger. Quand vous êtes peut-être dans une relation où la tentation se présente, et ça arrive peut-être maintenant, peut-être que ça arrive dans le passé, peut-être que ça arrivera demain, mais je pense que ça peut être utile d'y faire attention. Avec une autre personne, peut-être au travail ou dans un autre cercle, peut-être même à l'église. Tu as vraiment hâte de retrouver cette personne qui n'est pas ton épouse. Tu es prêt à changer tes habitudes pour être sûr que tu as des interactions régulières avec elle. Tu réarranges ton calendrier pour trouver des moyens de passer plus de temps avec cette personne. Des réunions tôt le matin, des pauses repas qui sont plus longues, des rendez-vous le soir. Tu deviens de plus en plus critique vis-à-vis de ton époux ou de ton épouse, particulièrement quand tu la compares avec cette autre personne. Tu cherches des raisons pour quitter la présence de ton épouse ou de ton époux. Ta vie de loisirs et de détente exclut de plus en plus ton époux ou ton épouse. Et enfin, ton désir d'être intimement, physique et émotionnellement impliqué avec ton épouse diminue de plus en plus. Si ces choses-là se passent, attention. Et voici des garde-fous à mettre en place si tu vois ça arriver. Premièrement, coupe la relation. Arrête de partager du temps, tes émotions, tes sentiments avec cette personne. Plus tu les partages, plus vous allez vous rapprocher, plus vous allez vous mettre en danger. Et si c'est possible, parfois c'est pas possible, mais coupe directement la relation, plus de relation totalement. Si c'est pas possible, alors plus de temps à partager en un à un. Et c'est même un garde-fou qu'on se met quand on n'est pas encore marié, avec Chloé, quand on a fait une année à distance, on s'est dit, je m'engage à ne pas être en un à un avec quelqu'un de l'autre sexe. Je ne serai pas avec une femme en un à un, et elle ne sera pas avec un homme en un à un. Parce qu'on sait qu'en étant à distance, on peut... Voilà. Deuxième chose, si ces choses se produisent, trouve de l'aide, reste pas seul. Trouve un gars ou une femme pour en parler, pour prier ensemble. Et c'est même mieux si tu l'as trouvé avant, un ami, un frère qui peut t'aider, qui peut t'accompagner dans ça. Troisièmement, renouvelle ton engagement à un mariage heureux. Renouvelle l'engagement que tu as pris le premier jour. Et cette première partie fait de ta femme, la femme de ta jeunesse, ta joie. C'est ça. Tous ces efforts qui sont mis là sur faire de la femme de ta jeunesse ta joie, c'est à ce moment-là que tu le fais. Tu reprends l'engagement de tout réimpliquer, de trouver cette joie peut-être que tu as perdue. Mais d'y aller. Contrairement à ce que les films ou les chansons nous poussent souvent à croire, seulement 10% des adultères se passent avec des personnes qui sont plus jolies que notre époux ou notre épouse. Là, généralement, c'est des gens qui juste comblent un besoin affectif. Ça veut dire que souvent, dans le couple, ça ne va pas forcément bien. C'est des passages à vide. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, c'est sur un mois. Pour les hommes, c'est généralement le besoin de se sentir apprécié, de se sentir respecté, d'avoir de la valeur. Pour les femmes, c'est souvent une idée de d'être entendu, aimé, chéri. Mais c'est un besoin émotionnel qui n'est pas rempli. Si ça arrive, au contraire, fais tout pour que ces besoins émotionnels, affectifs, qui ont été conçus et créés au mariage, soient remplis avec ton époux, ton épouse. Voici les garde-fous à mettre en place. Et je conclue. L'adultère est destructeur et il est vraiment dangereux. Les pistes pratiques que je viens de vous donner, ce n'est pas moi qui les ai sorties de mon expérience, de mon chapeau. C'est des choses qui ont été conseillées par des pasteurs conseillers qui ont l'expérience avec des couples et qui l'ont vu et revu et revu et revu. Et je rêve que dans notre Église, comme je l'ai dit en intro, on soit si fondé en Christ, satisfait en Christ, satisfait dans nos époux, nos relations, que quand la tentation de l'adultère viendra, on soit prêt à la détruire. L'adultère, c'est banalisé. Tout le monde dit que ce n'est pas grave. Mais on a vu à quel point ça touche même au tissu même, à ce qui fait le mariage. L'unité, l'amour indéfectible de Dieu et de son Église. Le pire de l'adultère, c'est que ça nous prive de Dieu. Ça ment sur Dieu. Et peut-être que vous êtes là ce matin et vous dites, en fait, c'est déjà arrivé. Il y a déjà eu un adultère dans ma vie. Peut-être que pour d'autres, vous n'êtes pas encore marié, mais la beauté de la sexualité telle qu'elle est décrite dans la Bible, elle a déjà été détruite parce que vous avez déjà eu des relations en dehors d'un mariage. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est ça? Il faut deux miracles. Deux miracles qui sont possibles en Christ. Le premier miracle, c'est le pardon. Que Dieu nous donne la force de pardonner à l'autre. Et le deuxième miracle, c'est une repentance profonde et durable qui dure. Et si ces deux miracles-là ne sont pas mis en place, il n'y a pas de restauration possible. Mais parce que si notre satisfaction vient vraiment de Dieu, si notre joie vient vraiment de connaître Dieu, alors on peut pardonner, se repentir et restaurer cette joie profonde, même dans un mariage qui a été brisé par l'adultère. Et même quand on a déjà eu des relations avant le mariage, c'est possible. Encore une fois, je ne parle pas de mon expérience personnelle. Je ne suis pas marié, pas encore. Je suis heureux d'étudier ça avant le mariage parce que ça va m'être utile. Je parle de choses que j'ai vues dans d'autres couples. Certains qui ont réussi à se relever, d'autres qui n'ont pas réussi à se relever. Et du témoignage d'autres pasteurs qui ont accompagné beaucoup de couples dans ces situations. Mais c'est possible en Christ. C'est possible en Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que tu nous as donné le mariage. Tu l'as créé, tu l'as instauré. Tu nous as donné la beauté de cette relation profonde, intime, dans le cadre de cette cellule familiale qui reflète en fait cette intimité profonde et intime que nous pouvons avoir avec toi. Et c'est un cadeau incroyable. Père, tu vois à quel point l'adultère est si répandu, si dangereux, si sournois. Et je prie, Père, que tu viennes protéger cette Église, protéger les couples, protéger les hommes, protéger les femmes, les maris et les épouses. Je te prie que tu nous donnes d'être pleinement et totalement satisfaits, premièrement en toi, et que nous puissions chacun faire de l'homme ou de la femme de notre jeunesse notre joie. Que nous puissions garder ce jardin secret, ce puits d'eau fraîche, pour nous, et ne pas le laisser se déverser à l'extérieur. Garde-nous, Seigneur, je t'en supplie. Nous avons besoin de toi. Révèle-nous encore à quel point tu es plus bon, plus doux que n'importe quel autre plaisir éphémère. Dans le nom de Jésus. Amen.